le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant ce dimanche matin. Nous accueillons aujourd'hui Agnès Adeline Scheffer, pasteur de l'Église protestante unie de France, à Clamart, ici les Moulineaux et Meudon-la-Forêt. Elle s'arrête sur un extrait de l'évangile de Matthieu aujourd'hui, où Jésus envoie ses disciples en mission.
Amis auditeurs connus ou inconnus, bonjour. Je suis très heureuse de vous accompagner. Peut-être êtes-vous en train de vous lever, de déjeuner ou déjà de vaquer à vos occupations et la radio vous accompagne. Prenons ensemble le temps d'écouter la parole de Dieu, de renouveler nos forces physiques et spirituelles par la musique et la prière. Soyez sans crainte. Le Seigneur est là, dans notre communion invisible des uns avec les autres, par l'intermédiaire des ondes. Il nous invite à le recevoir ici et maintenant. Je vous propose de partager cette prière. Dieu notre Père, nous venons de tous les horizons, avec des cultures différentes et des sensibilités religieuses diverses, avec notre foi, avec nos doutes. Peut-être sommes-nous à l'écoute pour la première fois. Tu sais lesquels d'entre nous ont pleuré dans le secret de leur chambre, devant le chevet d'un malade, devant la porte d'une prison, devant la porte de la mort. Tu sais lesquels d'entre nous ont pleuré parce qu'ils n'avaient pas été aimés, accueillis, écoutés, reconnus, compris, adoptés. Tu sais lesquels d'entre nous ont pleuré parce qu'ils n'avaient pas su trouver les mots, ni dire les paroles qui consolent, qui soulagent. Tu sais lesquels d'entre nous ont été meurtris parce qu'ils n'ont pas fait attention, parce qu'ils sont arrivés trop tard, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient frères et sœurs des plus pauvres et des plus déshérités. Tu sais aussi lesquels d'entre nous n'ont pas pleuré ou n'arrivent plus à pleurer. La vie les entraîne sans répit. Ils oublient peut-être de vivre. Ils oublient d'être humains, tout simplement. Et cela génère en eux un sentiment obscur, comme si quelque chose avait été raté. Père, accorde à chacun, chacune, quel que soit le sentiment qui l'anime, la tendresse de ta présence. Nous te le demandons, au nom de ton amour, Jésus le Christ. Amen. Il nous arrive de nous demander ce qu'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile de répondre. Essayons tout de même. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions. Il désire simplement notre confiance absolue. Devant nous, il y a le bien et le mal. Il nous demande de choisir l'amour, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la paix, la bienveillance, la fidélité et la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Si nous avons envie de vivre ainsi, alors nous avons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu en nous. Nous découvrons aussi ce que Jésus a enseigné, et ce qu'il a enseigné se résume de cette manière. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici l'autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant d'ouvrir la Bible, pour y lire le texte du jour, je vous propose de vous associer à cette prière qui demande la présence de l'Esprit de Dieu sur notre monde. Viens, Esprit de Dieu. Qu'il vienne l'Esprit de sagesse sur un monde en folie. Qu'il nous enseigne les secrets du royaume. Qu'il vienne l'Esprit de patience sur un monde accablé. Qu'il nous apprenne à tenir dans l'épreuve. Qu'il vienne l'Esprit de tendresse sur un monde endurci. Qu'il nous imprègne de son eau bienfaisante. Qu'il vienne l'Esprit de silence sur un monde agité. Qu'il nous prépare à l'écoute des autres. Qu'il vienne l'Esprit de jeunesse sur un monde vieilli. Qu'il nous irrigue de sève nouvelle. Qu'il vienne l'Esprit de confiance sur un monde angoissé. Qu'il nous dispose à chanter notre espérance. Qu'il vienne l'Esprit de lumière sur un monde endormi. Qu'il nous éveille à la joie éternelle. Alors, nous serons sauvés. Le passage de l'évangile de Matthieu que nous allons découvrir se situe au chapitre 28. Ce sont les tout derniers versets de cet évangile. Et voici comment Matthieu termine l'histoire de Jésus. Jésus, ressuscité, a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée, là où tout avait commencé. Les disciples se rendent sur une montagne où Jésus les attend. On ne sait pas comment s'appelle cette montagne, mais lorsqu'on est un peu familier des textes de la Bible, on apprend que cette montagne est l'endroit où l'on rencontre Dieu, où Dieu se manifeste et se révèle. Alors, pour les disciples, ce rendez-vous est important, parce que c'est là qu'ils vont voir Jésus ressuscité pour la première fois. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Jusqu'à présent, seules les femmes ont été les témoins privilégiés de Jésus ressuscité. D'ailleurs, si les disciples se rendent en Galilée, c'est parce que les femmes leur ont dit d'y aller, selon la parole même de Jésus. « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » C'est donc au tour des disciples de rencontrer Jésus ressuscité. On ne nous dit rien sur l'apparence de Jésus. On ne sait pas comment il est physiquement. Est-ce que ses vêtements sont blancs? Est-ce qu'il y a une lumière spéciale qui l'entoure? Le récit est d'une sobriété désarmante. Quand les disciples voient Jésus, ils se prosternent. Autrement dit, ils s'agenouillent, ils s'inclinent, ils s'abaissent devant lui. C'est une impulsion très forte qui exprime leur considération et leur respect. Les disciples reconnaissent en Jésus une autorité sans réserve. Et pourtant, nous dit le texte, certains ont des doutes. D'ailleurs, si on prenait le texte mot à mot à partir du grec, eh bien on s'apercevrait qu'on peut traduire cette phrase aussi de cette manière. Ils se prosternèrent et tous eurent des doutes. Ils se prosternent, mais ils restent sceptiques. Ils s'inclinent devant Jésus ressuscité, mais ils hésitent. Au fond, que ce soit certains ou même la totalité, eh bien, ils ont quelque chose de rassurant, je trouve, moi, ces disciples. En ce sens qu'ils rejoignent la plupart d'entre nous, voire la totalité d'entre nous, lorsque nous entendons ce récit. Nous sommes plongés de la même façon qu'eux dans le doute ou le scepticisme. L'événement de la résurrection de Jésus ne s'impose aucunement comme une évidence. Il faut parfois toute une vie pour comprendre ce que cela signifie. Comme s'il y avait une résistance qui nous empêche d'y adhérer à fond. Ce sont les tout derniers versets de l'évangile de Matthieu qui sont proposés à notre méditation aujourd'hui. Ils arrivent comme une sorte de conclusion qui vient clôturer la période terrestre de Jésus. À partir de maintenant, ce n'est plus le même type de relation qui va se mettre en place entre lui et ses disciples. Et cela se manifeste ici par le fait que le ressuscité envoie ses disciples en mission. Les disciples sont en train de vivre leur dernier moment avec Jésus, lui qui ne s'est pas encore soustrait à leur regard. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, il n'y a pas à proprement parler de récit de l'ascension, juste un envoi des disciples en mission. Si on ne sait rien du physique de Jésus dans ce récit, on peut imaginer en tout cas moi je l'imagine ainsi, que c'est tout de même un Jésus glorieux qui parle à ses disciples. Image peut-être suggérée par ces mots « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Et ce Jésus, investi de cette autorité, me rappelle un passage d'un autre livre de la Bible, le livre du prophète Daniel. Ce prophète avait eu une vision décrite de cette façon. « Au Fils de l'homme fut donné empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues l'adorèrent. » Sans doute, Matthieu l'évangéliste reconnaît qu'il y a là l'accomplissement de cette prophétie, dans cette présence spécifique de Jésus. Jésus envoie ses disciples en mission avec ces mots surprenants. « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » C'est une mission démesurée. C'est un défi impossible à relever au premier abord. Pourtant, ne sommes-nous pas devant une certaine passation de pouvoir? Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné, mais c'est vous qui allez partir vers les nations, c'est vous qui allez baptiser, c'est vous qui allez enseigner. » Et cette formule « Père, Fils, Saint-Esprit » a quelque chose de curieux à cette place dans l'Évangile. C'est la première fois qu'elle est mentionnée aussi explicitement. Alors cette formule porte un nom qui n'existe pas en tant que tel dans la Bible, mais qui a été, disons, inventée pour exprimer ce qu'elle voulait dire. Il s'agit de la Trinité. Être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit témoigne d'une pratique religieuse qui était déjà en place par l'Église primitive au moment de la rédaction de cet évangile. Cela témoigne que le baptême fait entrer la personne dans une relation personnelle avec Dieu, présent de trois façons, à la fois distincte et complémentaire. Dieu présent à l'origine du monde, Dieu présent dans la rencontre avec le prochain, Dieu présent dans le souffle. Cette formule est suivie d'une exhortation, apprendre à ceux qui sont baptisés à garder tout ce que Jésus a prescrit ou enseigné. En quelques mots, nous avons le concentré de la mission des disciples, le baptême et l'enseignement, autrement dit, le sacrement et la prédication de la parole, qui sont, en quelque sorte, les deux piliers qui tiennent l'équilibre de la célébration chrétienne. Rien de plus, rien de moins. Jésus laisse une mission à la fois simple et immense. Et nous pouvons sentir une sorte de tension à cet instant. Si Jésus envoie ses disciples en mission, c'est que lui, d'une certaine façon, se retire. Jésus est en train de leur faire comprendre qu'il ne sera plus avec eux physiquement. C'est pourquoi il ajoute « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Oui, c'est à vous d'y aller, mais vous n'êtes pas seuls. Les disciples ne savent pas encore qu'ils se retrouvent face à eux-mêmes. Et il n'y a aucune formule magique dans ce passage, tel que l'évangéliste Matthieu nous le transmet. Jésus dit simplement à ses disciples qu'ils ont l'essentiel pour continuer sa présence invisible. C'est donc aux disciples d'écrire la suite de l'histoire pour qu'elle ne tombe pas aux oubliettes. C'est à eux de prendre le relais du message de Jésus, de ses actes, de sa vie, de ses guérisons, de ses miracles, de son témoignage. C'est à eux de dire aux autres ce qu'ils ont reçu de lui, ce qu'ils ont compris de lui et comment cela les fait vivre. C'est à eux de transmettre ce qu'ils ont appris, de donner ce qu'ils ont reçu, afin que se prolonge le message et la présence de Jésus de génération en génération. Si Jésus a en quelque sorte rempli une partie du contrat sur la terre, les disciples sont appelés à leur tour à remplir la leur, malgré leurs doutes et leurs peurs, malgré leurs hésitations et leurs sentiments d'impuissance, et même s'ils n'ont pas tout compris du message de Jésus. Appelés à témoigner de ce que Jésus a dit et a fait, avec juste cette promesse aussi démesurée que la mission elle-même, « Je suis avec vous tous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Symbolisant une présence invisible, mais durable, voire éternelle. Cette promesse rejoint ainsi une autre promesse de Dieu dans le Premier Testament qui répétait à chaque prophète envoyé, à chaque témoin missionné, la même promesse d'être constamment avec lui. Et puis, n'est-ce pas l'autre nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, annoncé à sa naissance? C'est une façon de dire que même s'il ne se voit pas, Dieu en Jésus s'implique dans la mission des disciples et dans la nôtre aujourd'hui, si nous prenons le relais. Mais cela avait déjà été dit autrement à travers cette autre parole de Jésus, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Être assemblé en son nom, au fond, c'est simplement être réuni en son amour. C'est être réuni en ayant une confiance aveugle, si j'ose dire, en une présence invisible et néanmoins fidèle. C'est croire à cette présence, malgré le silence, malgré l'absence. Cette présence va se décliner autrement que physiquement, à partir de maintenant. Et cette présence naît de cette promesse. C'est un pari totalement fou. Et pourtant, il ne s'agit de rien d'autre. Juste une promesse. une promesse insensée, mais qui peut donner le droit à chacun et à chacune de plonger dans un doute, sinon incontournable, en tout cas légitime. Faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui promet simplement d'être là, tout de même, c'est à la fois enthousiasmant et absurde. Recevoir cette promesse, donner du crédit à cette parole, eh bien c'est tout simplement faire une confiance absolue, ce qui est la définition même de la foi. Cela n'empêche en rien de se poser les questions nécessaires à l'intelligence de la foi, à la critique de la foi. Mais à un moment donné, si cette parole rejoint une part de ma vie, sinon ma vie tout entière, alors c'est seulement avec la confiance qu'on y va et rien d'autre. Mais c'est comme ça aussi dans la vie. Lorsqu'on s'engage avec quelqu'un par amour, lorsqu'on a un enfant avec cette personne, ou que l'on construit un projet de vie avec une église, ou qu'on s'engage dans un métier, un service, une association. Tout en réfléchissant, tout en pesant le pour ou le contre, et même si on se trompe de chemin, eh bien c'est cette promesse de ne pas être seul qui fait que nous y allons. Cela rejoint toutes les intimes convictions des autres témoins de la Bible qui se sont levés, qui sont partis un beau matin, convaincus que leur marche ne serait pas vaine, persuadés coûte que coûte pour les uns que le chemin conduirait quelque part, même à travers le désert. Certains pour d'autres qu'une présence invisible mais fidèle agirait sur les éléments ou se tiendrait imperceptible dans le murmure d'un souffle ténu. C'est cette même conviction qui a fait se lever d'autres témoins plus proches de nous, quelqu'un par exemple comme Martin Luther King. Croire à cette promesse de ne jamais être seul, le croire de toutes ses forces, même au plus profond de la solitude, du découragement, et si possible, plus encore, au plus profond de la souffrance et de la maladie, ou pire, dans l'enfer de la torture, de la persécution, de l'emprisonnement et même de la mort. Et si on ne peut plus le croire, alors espérez que d'autres vont le croire pour moi. Croire en cette parole que l'amour et la vie sont plus forts que toute forme de mort, malgré les apparences contraires. Être porté par cette parole, encore aujourd'hui, ici et maintenant, alors que nous partageons ce temps ensemble. Cette promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de chacun de nos mondes, en fait, cela donne un élan irrésistible à tout engagement. Elle fait trouver les mots qu'il faut pour répondre à un appel et partir à l'aventure, comme la nuée des témoins qui nous a précédés et qui ont fait leur travail de témoins malgré leurs doutes, leurs hésitations, leurs remises en question, puisque nous sommes là aujourd'hui, à notre tour, prêts, d'une façon ou d'une autre, à prendre la relève dans cette même confiance absolue. Tant d'autres, aujourd'hui, comptent sur notre prière, attendent une parole qui les remette debout, qui donne un sens à leur vie, qui réoriente leur vie, leur marche, qui les réenracine dans une confiance qui réconcilie. L'Évangile a peut-être été proposé un jour dans notre vie. En tout cas, il est encore proposé aujourd'hui. Si cela a changé quelque chose dans notre quotidien, s'il nous a mis en route à la suite du ressuscité, proposons-le à d'autres maintenant. Nous ne passerons jamais pour des illuminés, mais seulement pour des personnes habitées par ce qu'elles croient. Nous ferons alors l'expérience d'une foi unifiée à la vie. Le signe visible de cette présence invisible sera la paix. La paix intérieure comme extérieure. C'est là seulement que nous saurons que Jésus, le Christ, est pleinement dans nos vies et que, malgré son apparente absence, Dieu, en lui, n'a jamais déserté l'humanité. Il continue d'être présent auprès des générations qui suivent. Il peut toujours nous rejoindre aujourd'hui. Je vous propose de partager un texte qui tente de traduire cette présence invisible et néanmoins fidèle. Je crois en Dieu, source de l'amour, père de tout être humain comme il est le mien, présent dans toute vie comme il l'est dans la mienne. Je crois en Jésus-Christ, témoin incomparable de cet amour, frère de chaque être humain comme il est le mien, humanisant cette présence en toute vie comme il le fait dans la mienne, appelant chacun, chacune à vivre et à annoncer cet amour comme il m'a appelé. Je crois en l'Esprit Saint, renaissance infinie de cette présence et de cet amour, vérité que personne ne peut détenir, liberté que personne ne peut enfermer, douceur et tendresse de la vie de tout être humain comme de la mienne, consolation et guérison du chagrin de tout être humain comme du mien, rythme et mélodie du chant de tout être humain comme du mien, pardon, grâce et paix de la fragilité de tout être humain comme de la mienne. C'est ce que je crois aujourd'hui. Demain, renouvelé, je le dirai autrement. Notre rencontre de ce matin s'achève et je vous propose de rassembler toutes nos intentions de prière dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je souhaite que cette promesse du Christ vous accompagne chaque jour de votre vie.
Ainsi s'achève ce service protestant avec Agnès Adeline Schaeffer, pasteur de l'Église protestante unie de France, à Clamart, ici les Moulineaux et Meudon-la-Forêt. Merci à Clotilde Pivin et à Éric Boisset pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Retrouvez cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Et si vous désirez recevoir le texte de cette émission par courrier, vous pouvez écrire au service radio de la Fédération protestante de France, au 47 rue de Clichy, 75 009, Paris. Restez à l'écoute de France Culture, à suivre dans un instant le journal, puis retrouvez Talmudic avec Marc-Alain Wacknin. Je vous retrouve dimanche prochain.